Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et vous en avez l'habitude, vous connaissez le programme maintenant. Jusqu'à 19h, c'est l'heure de mettre à plat toutes les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Ce soir, toujours à distance, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Dutheil, chef du service économie, et depuis Strasbourg, parce qu'on fait le tour de la France toute cette semaine, notre correspondant Arthur Mbaché.
Bonsoir à tous, bonsoir Arthur Mbaché dans l'Est, bienvenue.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, on a entendu, peut-être avez-vous entendu Éric Toledano il y a quelques minutes hein, sur ce plan culture d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on y revienne pour enchaîner avec vous, Ève Roger, Mickaël Darmon, parce que c'est clairement le sujet du jour. Écoutez d'abord, si vous le voulez bien tous, ce régisseur, Clément, sur des tournages de télévision, de séries ou de cinéma, et cette annonce d'une année blanche, qui l'a rassuré, il l'a livré à Angèle Châtelier pour Europe 1.
Ça permet de laisser plus d'un an pour pouvoir refaire nos heures. Il nous dit d'aller dans les écoles et de prêcher la bonne parole, ce qui est bien, mais voilà, il faut pas que ça devienne une obligation non plus, faut pas que on perde par exemple notre statut si on décide de pas le faire parce qu'on n'est pas tous des pédagogues. Le truc qui m'inquiète, c'est quand on me dit année blanche, c'est super, mais année blanche comment? Parce que est-ce que ça veut dire qu'on va être indemnisé de la même manière qu'on est indemnisé actuellement? Parce qu'il faut savoir que plus tu as travaillé, plus tu vas être indemnisé sur ton statut. C'est aussi la grande question. Pour l'instant, on sait qu'on va être indemnisé, donc c'est bien. Mais est-ce que ça va être au même niveau, tu vois? Parce que si on me dit, ouais, bon, vous êtes tous indemnisés, mais par contre, c'est revu à la baisse, vous êtes indemnisés à raison de 80%, ça va pas être la même chose.
Voilà, ces propos recueillis par Angèle Châtelier. Donc, ok, sur le principe, merci, mais quand même quelques réserves. Alors, Ève, Roger, bonsoir, et on y retourne parce que voilà, il est reçu, j'allais dire, diversement, ce plan, hein.
Alors, ce qui est surtout frappant, c'est que pourquoi il arrive si tard, ce plan? C'est-à-dire que on a parlé de tous les secteurs économiques de France depuis le début, l'automobile, l'industrie, même les cafés-restaurants, on en a beaucoup entendu parler, même si eux-mêmes sont en difficulté. C'est comme si la culture n'avait pas existé, alors que c'est quand même 2,3% du PIB. Donc Emmanuel Dutheil pourra même participer à notre conversation, parce que je pense qu'en termes de millions d'euros, le secteur de la culture brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et pourquoi il a fallu attendre 2 mois pour que le président Macron s'y intéresse, pour qu'on entende le ministre de la Culture? Donc c'est surtout ça qui me frappe, c'est-à-dire qu'il y a un plan, bon, à mon avis, de toutes les annonces, il n'y a que celle de l'année blanche pour les intermittents, voilà, les autres, on franchement, on n'y croit pas trop. Et c'est-à-dire que hier Dumontet disait, le patron des théâtres français, on a besoin de notre 11 mai à nous, et on n'a toujours pas de 11 mai de la culture. On ne sait pas quand est-ce que la culture va pouvoir reprendre ses activités, et ça fait quand même 1 300 000 personnes. Donc au fond, pourquoi il y a un dédain comme ça? Pour moi, c'est comme ça que je sens. Pourquoi il y a un dédain?
Vous avez vu,
culture.
J'ai posé la question à Éric Toledano, est-ce que ça a été abordé avec le président? Ils ne sont pas allés sur ce terrain-là, il ne s'agissait pas de polémiquer. Alors Mickaël Darmon et Emmanuel Dutheil aussi sur ce sujet. D'abord, on a vu Mickaël Darmon, enfin moi j'ai vu, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais il était très exalté, hein, Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a vu le ministre de tutelle, Franck Riester, à côté à notre temps. Ni plus,
bah, beaucoup
ni
moins exalté, c'est-à-dire que chacun dans son rôle, voilà, Franck Riester fait du Franck Riester, et Emmanuel Macron qui au fond sait très bien que le domaine de la culture est un domaine régalien, qui est un domaine qui est directement mené et dirigé par un président de la République. On l'avait déjà compris avec d'autres présidents. Et bien, il a évidemment voulu absolument démontrer cela, ne serait-ce que d'ailleurs par la stylistique, hein. Regardez, il était alors que d'habitude dans les visioconférences il est en costume de manière extrêmement solennelle, là il était en manche de chemise retroussée,
sans cravate,
des contrats, presque sans cravate. Bon, il était genre culture, quoi. Et il savait bien qu'il avait en face de lui des gens avec lesquels il devait montrer une forme de relation. Il faut savoir d'ailleurs que très régulièrement, il reçoit l'ensemble du cinéma français et d'autres représentants de la culture régulièrement à l'Élysée. Donc c'est une population qu'il a l'habitude de fréquenter et qui est très importante dans une élection présidentielle.
Oui, c'est là que ça nous étonne d'autant plus. Importants. Pourquoi ce délai? Bien sûr, c'est là que ça nous étonne d'autant
plus. Tout simplement parce qu'effectivement, et là, Ève l'a très bien dit, dans les questions d'urgence, eh bien, d'abord, on pense aux choses essentielles, et la culture.
Comme vous
aussi arrive toujours, toujours un petit peu après. Dans ce pacte, effectivement, il y a la dimension économique et puis il y a effectivement cette dimension, je dirais, civico-politique, puisqu'il a aussi passé une sorte de pacte avec eux en disant faites un été apprenant dans les cités ou avec les gens qui n'ont pas l'habitude de vous fréquenter, trouvez de nouvelles relations avec le public dans le théâtre, avec des captations, avec des nouvelles manières de gérer votre activité. Et il a évidemment ensuite fait sa grande sortie sur l'idéalisme est un pragmatisme. Quand on est dans l'idéal, on est aussi dans les choses très très concrètes, ce qui ressemblait quand même à une forme d'autoportrait.
Oui, c'est ça. On n'est pas loin, effectivement. Éric Toledano, finalement, nous a bien fait le débrief. Hein. On peut l'embaucher. Il était effectivement dans cette même vue que vous, Michaël Darmon. Emmanuel Duteil, un mot peut-être encore avant de passer à un autre sujet, parce qu'on en a pléthore, sur les intermittents et sur ce droit qui va être prolongé.
Oui. Alors moi déjà, je suis pas tout à fait d'accord avec Ève Roger quand elle dit que la culture arrive en dernier, puisque c'est quand même l'un des premiers plans détaillés que l'on commence à voir pour un secteur en particulier. Les restaurateurs, ils ont un début de plan, mais eux, par exemple, ne savent même pas quand est-ce qu'ils peuvent rouvrir. On n'a pas de plan clair pour l'automobile, on n'a pas de plan clair pour l'aéronautique. Tout ça, ça va être décidé d'ici à juillet. Donc effectivement, il y a deux mesures.
Mais on a des annonces.
Oui, mais ils en ont bénéficié aussi, ma chère Ève.
C'est-à-dire que les 20 millions. Mais 7 milliards pour Air France.
Oui, mais alors, c'est pas pareil. A priori, on n'a aucun théâtre qui va avoir besoin de 7 milliards d'euros. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans tout ce secteur, toutes les entreprises du spectacle ont bénéficié des autres dispositifs. Là, on est sur un plan pour permettre aux salariés de continuer à garder leurs compétences et à vivre de leur métier, et également d'imaginer la suite. Parce qu'il y a deux annonces très économiques qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une proposition de cette fameuse année blanche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir toucher le chômage quand on est intermittent du spectacle, parce que c'est quasiment impossible de travailler toute une année quand on travaille dans ces métiers qu'on n'est pas une star, et bien là, ils vont avoir plus de temps pour cotiser leurs fameuses heures nécessaires. C'est un point extrêmement important. Ouais. Le deuxième point important, et là on est vraiment dans quelque chose de très économique, c'est la commande publique. C'est-à-dire que l'État va commander des pièces de théâtre ou des choses comme pour alimenter le travail de tous ces gens qui en ont en ce moment besoin. Donc effectivement, sur le papier, c'est pas des milliards d'euros pour le moment, mais le dispositif d'aide pour les intermittents, c'était quelque chose de très demandé. Alors le président nous dit, grâce à la commande publique,
Emmanuel,
on en aura peut-être même
quatre.
Pas besoin. Tout le monde va retourner au cinéma et tout ça. J'espère qu'ils ont quand même mis quelques millions d'euros derrière, parce que ça va sûrement quand même un petit peu tanguer.
C'est ça. D'autant qu'on n'a toujours pas de date précise, même si début juin est évoqué. On se reparle dans un instant. Arthur Mbaché, on est là, on arrive vous et on vient vous voir.
Europe 1.
Et de la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Arthur Mbaché, bonsoir, on est avec vous dans le Grand Est. Alors Arthur, soyons clairs, la rentrée des classes, on s'y est tous préparés, ça y est, c'est pour lundi, en tout cas les profs et puis les élèves le lendemain.
En théorie.
Le compte à rebours est enclenché, avec bien sûr énormément de zones d'ombre. Chez vous précisément, comment ça se joue?
Vous savez quoi? C'est pas simple. Pourquoi ai-je accepté ce poste d'adjoint à l'éducation? Je pense qu'il y a pas mal d'élus qui se posent cette question en ce moment. La tâche est vraiment immense. Et du côté des familles, c'est compliqué aussi. Un ami m'a dit ce matin au téléphone que sa femme s'était mise à pleurer quand elle a compris que les CM1 à Strasbourg ne retourneraient pas à l'école avant très très longtemps. Alors, on le sait, l'exécutif a laissé la main aux mairies, donc on va avoir par définition autant de dispositifs que de communes avec écoles. J'ai identifié, grosso modo, ici dans le coin, trois tendances, trois façons de voir les choses. Premier cas, par exemple, la petite commune d'Étouvent dans le Doubs, c'est le plus simple, si on peut dire. Le maire a tout simplement publié un arrêté pour interdire la réouverture. Ouais. Idem à Tagolsheim, dans le Haut-Rhin, souvent dans des petites communes. À Tagolsheim, ils disent les enfants, rendez-vous en septembre. Autre cas de figure, réouverture progressive par niveau. C'est ce qui se profile ici à Strasbourg. D'abord les CM2, à partir non pas du 11 mais du 14, puis peut-être, dit-on, les CP et éventuellement, mais alors là, on verra, les CE1 répéraient plus pour commencer. Pour tous les autres, normalement, rendez-vous à l'automne. Il y a une troisième manière de voir.
Carrément, pas fin juin, pas mi-juin, à l'automne.
Vraisemblablement, en tout cas, c'est ce qui se trame. Les maternelles, c'est sûr et certain, ici à Strasbourg. Ouais. Et à part les CM1 et les CP, pour l'instant, on sait pas trop. Ouais. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est une réouverture progressive toujours, mais là, non pas par niveau, mais pour certaines catégories de familles et d'élèves. À Nancy, par exemple, priorité aux enfants, dixit la mairie, qui rencontrent des difficultés scolaires ouais. avec l'enseignement à distance. Donc, que ce soit des CM2 ou des petites sections de maternelle, apparemment, pas de différence. Priorité aussi aux enfants de parents qui exercent une profession dite prioritaire. Le point commun dans tout ça, Nathalie, c'est que les enseignants qui bricolent avec plus ou moins de motivation et de réussite depuis 2 mois, ils commencent à comprendre que l'école, comme avant, c'est pas encore au programme. La preuve, cette consigne donnée par SMS à un directeur d'école, à ses équipes ici en Alsace, j'ai lu ce texto, il dit « va falloir qu'on réfléchisse à un nouveau fonctionnement pour toute l'année prochaine. » Et il détaille, 1, en priorisant les notions qu'on va aborder par niveau. Donc ça veut dire, finalement, un programme revu à la baisse.
C'est
et puis,
oui, c'est ça.
C'est ça. Et puis 2, ça, il le dit sous forme de boutade, mais c'est pas anodin quand on sait que les profs bossent en général avec leur ordi perso. Il dit, si votre ordinateur pour les cours à distance est vieillissant, investissez parce que ça risque de durer, cette affaire.
Ah oui, d'accord. Donc, le projet pédagogique a quand même du plomb dans l'aile. Déjà, en tout cas, jusqu'à l'été et après, compliqué. C'est pas réjouissant.
Il va falloir jongler entre la maison, la classe, une partie des élèves, un jour, des autres.
Bon, alors, jonglons, je reviens vous voir. On va jongler avec les grandes voix pour l'instant. Ève Roger, je reviens vous voir parce que ce plan de déconfinement, même si c'est quasiment tout maintenant, il sera annoncé demain à 16h. Édouard Philippe aux commandes pour nous en dire peut-être un peu plus, mais aura-t-on des surprises? Ça y est, c'est fait, c'est dit, c'est clair pour ainsi dire. Hein. Le 11, on y retourne.
Alors oui, c'est ça. J'ai eu l'impression que ce week-end, on a joué un peu à se faire peur. Hein. On s'est dit, oh là là, peut-être que la date du 11 mai pourrait être mise en question.
Le chiffon rouge.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'avais pas du tout ce sentiment-là qu'il y avait un risque pour le 11 mai. Non, la nouveauté du jour, c'est plutôt... Alors, vous saviez, aujourd'hui, Jean Castex, monsieur des confinements, dont on a parlé, Mickaël, il n'y a pas longtemps, était auditionné au Sénat. Et lui, au détour d'une phrase, il a raconté que... Donc, il avait fait son plan de déconfinement, mais qu'il avait aussi, parallèlement, fait un plan de reconfinement. Ouais. Donc, je ne sais pas si là aussi, c'est une façon de faire peur et de dire, alors attention, les amis, si vous faites un peu n'importe quoi, si vous ne faites pas bien attention, on pourrait se reconfiner. Mais en fait, je trouve qu'il y a une espèce de jeu, je ne sais pas s'il est réel, s'il est mimé, ou en tout cas, quelque chose qui n'est pas très clair. En tout cas, je pense qu'effectivement, le déconfinement aura lieu bien, évidemment, le 11. Et je pense... En tout cas, je l'espère, mais peut-être Mickaël pourra nous le dire. Je pense que demain, on aura quand même un peu plus de détails. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on se demande une seule chose. Quelle est la différence entre les verts et les rouges? Et pour l'instant, il y en a deux. Mais deux, mais qui sont en plus assez subsidiaires, c'est-à-dire les parcs et jardins fermés dans les rouges et les collèges qui ne rouvriraient pas tout de suite. Et ça me semble pas beaucoup comme différence entre le vert et le rouge.
C'est ça. Alors, Mickaël Darmon, est-ce qu'on a quelques idées de ce qui peut être complété dans ce plan? Parce qu'on a quand même vraiment des éléments concrets depuis maintenant quelques jours. On peut imaginer des surprises? Ça se prépare encore là? On est vraiment en train d'imaginer des choses?
Vous savez, on est dans la logique de du fonctionnement Élysée-Matignon, ce qui veut dire que vraisemblablement jusqu'à encore peut-être 2 heures ou 1 heure avant le discours d'Edouard Philippe, il y aura encore certainement des arbitrages, d'autant plus qu'il y a un conseil de défense demain avant le conseil des ministres et ensuite il y aura donc la prise de parole à 16h. Donc ça laisse beaucoup de marge de manœuvre pour encore arbitrer sur des sujets qui sont encore en suspens, notamment la question peut-être, en tout cas une projection sur ce qui peut se passer sur le littoral. Vous avez vu le grand lobbying qui est fait par les responsables, les maires du littoral pour que les plages...
Parce que tout le littoral est vert, rappelons-le.
Voilà, peuvent être rouvrir donc en accès. Avec des précisions aussi sur, bien sûr, la manière dont ça peut s'organiser dans les transports, les lieux de culte, à quel moment pourra-t-on effectivement reprendre le chemin donc des temples pour ceux qui le désirent, notamment alors que les fêtes de Pentecôte approchent. Donc voilà, il y aura certainement encore des précisions, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Eve par rapport à ce que Jean Castex a présenté ce matin, le plan aussi, il a précisé qu'il y a aussi un plan de reconfinement. Ça, on est totalement dans la logique Matignon, dans la logique de la prudence qu'on a souvent évoquée ici, c'est-à-dire pour Édouard Philippe, la priorité des priorités, c'est la protection sanitaire, quitte éventuellement à revoir une partie du déconfinement si les informations sanitaires ne sont pas bonnes.
Ouais. Ben, c'est un peu le pareil, le chiffon rouge, hein, ce qui avait été agité par Angela Merkel en Allemagne, hein, quand elle avait vu que ce déconfinement se faisait un peu de manière rebelle, j'allais dire, les premiers jours où il y avait des queues devant les magasins de chaussures, etc. Donc peut-être que finalement c'est un peu partout pareil. On verra en tout cas, c'est demain 16h, hein, les détails de ce déconfinement. Édouard Philippe à la manœuvre. On se rejoint dans un instant, les grandes voix, tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Oui, avec ce plan de déconfinement donc annoncé demain, ce sera à vivre également sur Europe 1 pour le débrief des 18h. Emmanuel Duteil, on a eu des chiffres aujourd'hui, notamment la récession en Europe, mais la récession en France surtout. Alors, historique pour l'Union Européenne, encore pire, j'allais dire, pour la France. Expliquez-nous en quelques mots.
Ah bah, nous, très clairement, on est l'un des pires pays en Europe avec la catastrophe qui est en train de s'abattre sur nous, hein, avec des chiffres qui sont proches des chiffres français. On avait parlé ici des 8% de baisse de la croissance pour l'année 2020 prévue par la France. L'Europe nous dit que ce sera 8,2. Bon, on est dans l'épaisseur du trait, hein, et à Bercy, on dit même, attention, 8%, c'est encore si aux États-Unis la catastrophe ne s'aggrave pas et s'il n'y a pas de deuxième vague. Mais, parce que Roger va me dire, tu me fatigues avec tes chiffres négatifs, donne-nous enfin des bonnes nouvelles. Donc,
là, la Commission européenne...
en 2021, c'est la fête. C'est ça qui est le plus intéressant.
C'est l'optimisme de la Commission, ouais.
Oui, mais c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que vraiment, on est, alors là, ce qu'on appelle en formule mathématique, sur une crise en V. C'est-à-dire, on part d'un point haut, on arrive très bas, mais on remonte. Et c'est ça le plus intéressant en 2021, parce que on aurait, selon la Commission européenne, oui, une progression de notre croissance de 7,4%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on effacera la crise, bien loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on effacera tout ce qu'on est en train de perdre. Mais c'est un élément positif à avoir en tête, que si le retour au travail se passe à peu près correctement, s'il n'y a pas de deuxième vague, il y a une possibilité qu'après cette année noire, on puisse repartir l'an prochain. Alors attention, et je présente toutes les excuses tout de suite à Yves Roger, je suis quand même obligé de nuancer mon optimisme, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une catastrophe sur l'emploi dans les mois à venir. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout s'attendre, et je peux vous dire qu'un ministre de premier plan nous le disait aujourd'hui à Europe 1, vous allez avoir des plans de licenciement massif dans des pans entiers de l'économie. Mais l'espoir, c'est que en 2021, ça puisse repartir et que donc l'emploi reparte également.
D'accord, donc un optimisme prudent.
Voilà, c'est bien résumé,
voilà,
bravo.
Voilà. Bon. Arthur Mbaché, je reviens vous voir. Arthur, bien sûr, on s'est souvent parlé parce que dans votre région, on était très tôt dans cette crise, notamment avec des hôpitaux en sur-régime. La situation ces dernières semaines, où en est-on dans le Nord-Est ?
Alors ça va mieux, on parlait tout à l'heure du chiffon rouge, je ne saurais pas trop s'il faut l'agiter ou pas, mais c'est vrai que ça va mieux. Si on dézoome, si on prend un tout petit peu de recul, qu'on regarde le fameux graphique crucial, vous savez, du nombre de gens en réanimation, on n'en est plus à se débarrasser des patients par tous les moyens pour libérer de la place. Les trains, les avions médicalisés, tout ça, aujourd'hui dans le quart nord-est de la France, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, chiffon rouge ou pas. Ouais. Je ferme la parenthèse. Après, vous avez des coins où ça baisse de manière continue, c'est très rassurant. Mais si vous prenez par exemple le Haut-Rhin, le fameux Haut-Rhin, Mulhouse, le cœur du cœur du cœur de la chose, ouais. Ça diminue mais de manière irrégulière et parfois même ça remonte un peu. Dernier chiffre, 93 personnes en réa dans ce département, c'est 3 de plus que la veille. Chiffon rouge. Dans le même département, les retours à la maison, c'est aussi très variable. Hier, 47 sorties de l'hôpital. L'avant-veille, seulement 9. Chiffon rouge. On est habitué maintenant à voir plusieurs cartes, hein, vous savez, tous les soirs. Donc, notamment celle des capacités de réanimation. Tout le nord-est est rouge, donc au-delà des 80% de la capacité normale des hôpitaux. Ce qui est positif, ouais. Chiffon vert, c'est la première de ces deux cartes. Vous savez, ce qu'on appelle la circulation active du virus. Pas de rouge dans le nord-est, pas mal de orange, mais toute l'Alsace, par exemple, qui est verte, y compris le Haut-Rhin et Mulhouse.
Ouais, voilà. Alors, c'est chiffon vert, chiffon rouge, c'est un peu comme les départements. Voilà comment ça se passe là, chez vous, dans le nord-est, Arthur Mbaché. Michael Darmon, quelques mots, et Emmanuel Duteil, si on y parvient. Je voudrais juste revenir, Michael, sur un sondage. Pour Édouard Philippe, on est plutôt dans le vert. Pour Emmanuel Macron, on est plutôt dans le rouge vif, hein, à ce stade, hein, de la crise. Et ça crée des tensions encore entre les deux têtes de l'exécutif.
Et oui, c'est la raison pour laquelle, en fait, le président de la République a décidé, lui, de, malgré cela, de déconfiner sa parole et, en fait, de mettre au jour les divergences qui existent au sommet de l'exécutif avec cette fameuse réplique, hein, au quart de tour, presque à bout portant, lorsqu'il a répondu à la notion d'écroulement de l'économie. Eh bien, il a dit, moi, je n'ai pas ces grands mots. Ça rentrera, effectivement, maintenant dans la liste des phrases, hein, ouais, qui ont fait mouche, hein, dans les relations entre Premier ministre et, chef de l'État. Et en particulier, on a le sentiment qu'effectivement, avec cette même notion de sondage, exactement dans la même matrice, on s'en rappelle un peu la relation Sarko-Fillon à l'époque, oui. Et en plus quand Fillon avait aussi osé dire « je suis à la tête d'un État en faillite », eh bien ça avait beaucoup énervé, et quand eh bien il avait une avance dans les sondages par rapport au président, ça agaçait beaucoup à l'époque l'ancien président, qui multipliait les sorties donc pour pouvoir reprendre la parole. Donc on a bien compris ce qui se passe. Tout ça aussi, c'est le feuilleton du sous-texte pendant le confinement, une forme de inamalgame vôtre.
Exactement, c'est voilà. Tout à fait ça. C'est le confinement qui joue sur les popularités respectives. Édouard Philippe, Emmanuel Macron, dites-moi un mot, Emmanuel Dutheil, mais en moins d'une minute, s'il vous plaît, sur ce que l'Institut Montaigne imagine pour une vraie reprise face au Covid-19. Il faudrait travailler plus selon le think tank libéral, hein, soyons précis.
C'est exactement ça. Et c'est important de rappeler que c'est un think tank libéral, mais qui est plutôt écouté et qui est généralement assez sérieux. Travailler plus, oui. Des journées de travail plus longues, un jour férié et une semaine de vacances scolaires en moins. Ce sont les mesures choc, hein, qu'ils ont annoncées ce matin. Alors, ce sont bien évidemment des propositions. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk, n'est pas trop allée dans ce sens-là. Ouais, et pour avoir sondé l'exécutif pour le moment, on dit poliment... C'est des bonnes idées, mais c'est sûrement pas le moment d'essayer de faire passer ça aux Français. Pour le moment, on essaye déjà de retourner au travail, d'essayer de réussir à travailler, de sortir des gens du chômage partiel. Et puis on verra après s'il faut arriver à des mesures aussi douloureuses.
Ça rappelle ce qu'avait dit le MEDEF il y a quelques semaines de ça. Et puis
oui,
également,
mais vous vous rappelez tout comme
Bruno
moi
Retailleau
que c'était assez mal passé.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire.
Mais je pense que demain, Laurent Berger pourra revenir là-dessus. C'est également l'invité de la matinale.
Voilà, c'est fait. Merci beaucoup les grandes voix. Merci à vous quatre.
Merci,
salut
Nathalie.
Arthur Mbaché.
Merci Nathalie.
À demain.